France Culture.
Entretien avec Francis Ponge par Philippe Salers. Aujourd'hui, 12e et dernier entretien. L'écriture, fonctionnement, Objoie, le savon.
Je voudrais que nous en venions maintenant, si vous voulez bien, au savon. D'abord parce que le choix de cet objet me semble caractéristique. C'est le dernier livre que vous venez de publier. Vous y avez travaillé très longtemps. Vous m'avez dit une fois que le mot savon n'était pas si éloigné du mot savoir et que par conséquent, cette toilette intellectuelle, comme vous dites encore, que vous essayez de proposer avec ce texte, fait communiquer le savon avec le savoir et qu'il s'agirait peut-être en effet de nettoyer et de décaper ce savoir ancien auquel nous nous heurtons toujours lorsque nous voulons accéder au fonctionnement du texte. Je note deux choses. Je note d'abord que depuis un certain temps, les métaphores techniques qui reviennent le plus souvent dans vos textes sont des métaphores astronautique d'une certaine façon. C'est-à-dire que vous êtes passé, me semble-t-il, au niveau de la fiction du texte, d'une conception d'un espace, d'un appareil, d'une horlogerie, d'un fonctionnement harmonieux. Vous êtes passé, dans le choix de vos métaphores, à quelque chose qui ressemble à une mise à feu, à une mise en orbite, comme vous dites si bien, ce qui est directement en relation avec le monde le plus actuel que nous vivons en ce moment. Autrement dit, là, il y a comme un effort d'introduire, à la fois dans le texte et dans l'imagination du lecteur, une nouvelle conception de l'espace et de la révolution de l'homme par rapport aux objets, des objets par rapport à l'homme et des deux ensemble par rapport à l'écriture. Cette écriture dont vous ne cessez de préciser la nature et la fonction. Vous avez souvent dit, vous avez toujours répété qu'il était plus important finalement qu'un objet textuel fonctionne plutôt qu'il ne signifie. Dans le savon, vous arrivez à concevoir que les objets, quels qu'ils soient, les formes du monde matériel, se comportent comme une écriture. C'est-à-dire que quand vous écrivez par exemple, la production de son propre signe, devenant ainsi la condition de l'accomplissement de quoi que ce soit. Oui, oui, c'est bien ainsi qu'il faut concevoir l'écriture, non comme la transcription, selon un code conventionnel, de quelque idée, extérieure ou antérieure, mais à la vérité comme un orgasme, comme l'orgasme d'un être ou disons d'une structure déjà conventionnelle par elle-même, bien entendu, mais qui doit pour s'accomplir, se donner avec jubilation comme telle, en un mot, se signifier elle-même. Là, je crois que nous arrivons à une définition qui me paraît tout à fait capitale.
Ah oui, ce savon. Il est sûr que j'ai été récemment mis en contact, d'abord par mes lectures, aussi bien des journaux, des télégrammes annonçant les mises en orbite, les expéditions de fusées dans l'espace intersidéral. D'autre part, par le fait que j'ai commencé à faire de grands voyages et employant les moyens les plus modernes, c'est-à-dire en Boeing ou en caravelle, n'est-ce pas, j'ai été rendu sensible à des moyens de transport rapides et tout à fait modernes. Il se trouve que le premier texte que j'ai pu écrire, enfin en rapport avec ce fait que ma sensibilité a appréhendé ces moyens rapides de production, eh bien c'est aussi le texte que j'ai été obligé d'écrire pour préfacer, si vous voulez, mon savon, n'est-ce pas ? Et je peux le lire. Début du livre, le lecteur, puisqu'il s'agit maintenant d'un livre, d'emblée soit prié. Il comprendra très vite pourquoi, nous voulons dire pour le décollage, de se doter par l'imagination d'oreilles allemandes. J'avais pensé même titrer ce petit avant-propos par l'expression « serrez vos ceintures » qu'on lit quand on se trouve en avion au moment du décollage. Les oreilles allemandes, dont je prie qu'on veuille s'affubler, eh bien, c'est un peu comme un casque, comme la ceinture qu'on est obligé de mettre, ou le masque d'oxygène. Enfin, il s'agit de s'en affubler pour le décollage. Et ensuite, pour le franchissement de certaines perturbations, dis-je, qui est également un mot de la météorologie moderne, n'est-ce pas, destiné à l'écoute, n'est-ce pas. Et là, bien sûr, les perturbations, on ne voit plus rien, mais il s'agit à ce moment-là, dans mon texte, les passages qui correspondent à ce que j'ai dû écrire pour que ça soit dit à la radio, n'est-ce pas, et qui interviennent dans le texte, c'est-à-dire qui interrompent les notes faites pour être lues, eh bien, sont comme une sorte de perturbation, etc. Mais ceci se termine. Dès que notre savon aura été placé sur orbite, toute suggestion de cet ordre cessera, c'est-à-dire qu'on pourra alors enlever les écouteurs et serrer ses ceintures, etc., quand le savon aura été placé sur orbite. C'est-à-dire quand le texte, c'est évidemment par l'écriture, par le fait que le savon aura été écrit, qu'il aura été placé dans un monde qui ne participe plus de l'atmosphère. N'est-ce pas, c'est dit également à la fin de mon texte, fin du livre. Voici donc le livre bouclé, notre toupie lancée, notre savon en orbite, et tous les étages ou chapitres successifs mis à feu pour sa lancée peuvent bien déjà être retombés dans l'atmosphère, lieu commun de l'oubli, comme il fut celui du projet. Le savon est en orbite, le texte est en orbite, et tous les chapitres successifs qui ont été mis à feu pour sa lancée, tous les étages, sont retombés dans l'atmosphère. Qu'est-ce que c'est que l'atmosphère? C'est le lieu de la parole, c'est le lieu du souffle, de la respiration, n'est-ce pas? Tandis qu'on se trouve en état d'apesanteur, si vous voulez, au moment où on lit. Le savon est en orbite dans sa forme écrite, et il ne dépend plus, somme toute, de l'atmosphère, c'est-à-dire de la parole. L'accent est mis sur la différence entre l'écriture et la parole. Il y est mis à chaque instant dans le texte. C'est seulement la mise en orbite du texte par son écriture qui permet de transcender la parole comme souffle, etc. Alors, ce savon, dans les critiques que j'ai pu lire au sujet de ce livre, on parle d'architecture compliquée ou raffinée, mais on n'a pas lu finalement, on ne s'est pas rendu compte que ces problèmes y étaient inclus dans l'architecture en question. Par ailleurs, vous m'avez posé une question au sujet du fonctionnement, n'est-ce pas? Alors, le fonctionnement, évidemment, j'ai toujours considéré que ce qui permettait à quelque chose d'exister, c'était une espèce d'imbrication très complexe des éléments de la chose qui en faisait une sorte de machine, de mécanique, d'horloge, étant entendu qu'il ne s'agit que d'éléments matériels et par eux-mêmes statiques et inertes, comme sont en quelque façon aussi les mots, si vous voulez, mais que leur agencement, la façon de les mettre en rapport les uns avec les autres, comme des rouages qui se font fonctionner quand on les met ensemble, tandis que si on ne les met pas ensemble, ben, ils sont parfaitement inertes, comme une montre qu'on a démontée. Eh bien, c'était la mise en agencement des mots, et comme je l'ai dit déjà, leur agencement au niveau des racines, de ce qu'ils ont de plus matériel, au fond, et de plus concret, eh bien que c'est cela qui permettait une sorte de fonctionnement, et que ce fonctionnement alors allait se poursuivre comme une sorte presque de mouvement perpétuel. Nous retrouvons encore là l'idée de la mise en orbite, de l'éternisation des éléments par le fait qu'ils sont rapprochés d'une certaine façon et qu'ils sont agencés, ajustés, et qu'alors ils se mettent à fonctionner tout seuls, le mécanicien lui-même, le fabricant, ayant disparu, et que tout cela fonctionne sans que la personne qui les a arrangés, ajustés, soit encore nécessaire, sans que l'auteur peut mourir à ce moment-là. Alors, ce qui est peut-être plus important encore, enfin, bien que vous ayez mis l'accent sur le fait que cette idée d'une mécanique universelle d'un fonctionnement est remplacé maintenant par des images, des métaphores plus modernes, si vous voulez, mais c'est au fond toujours les mêmes. Quand je parlais d'une harmonie, j'ai toujours fait des restrictions au sujet de cette harmonie. J'ai toujours dit harmonie, mais surtout fonctionnement, enfin sans coefficient de valeur, c'est-à-dire sans ce qu'on dit d'habitude que l'harmonie est affectée d'un coefficient positif, n'est-ce pas ? C'est bien l'harmonie, tandis que le fonctionnement, eh bien, c'est neutre. Il ne s'agit pas de quelque chose qui soit particulièrement heureux. Enfin, je ne veux pas dire que le fonctionnement du monde soit harmonieux plus qu'autre chose. Il est aussi assez terrible. Enfin, c'est évidemment aussi une sorte de prison. Et il y a autant de tragique que de bonheur, enfin, dans la contemplation, par exemple, du ciel nocturne. Enfin, ce n'est pas particulièrement admirable. Enfin, je comprends aussi bien qu'on parle de l'harmonie des sphères et puis que Pascal parle, par exemple, de l'effroi que lui procure la considération des espaces infinis, n'est-ce pas ? Tout cela, je ne veux pas que ça soit affecté, le moins du monde, d'un coefficient plutôt positif que négatif. Il s'agit d'un fonctionnement comme tel, et c'est de cela que je veux parler. Ensuite, je parle, comme vous l'avez cité, d'une structure déjà conventionnelle par elle-même, mais qui doit, pour s'accomplir, se donner comme telle. En un mot, se signifier elle-même. Là, il y a quelque chose d'assez difficile à expliquer, qui sort peut-être du lieu commun. C'est l'idée que toute structure, quelle qu'elle soit, est déjà, bien entendu, conventionnelle par elle-même. Il est évident que, qu'il s'agisse des mots, des personnes, des machines, du monde entier, de l'horlogerie universelle, comme on la conçoit maintenant, ou si vous voulez, du fonctionnement de l'infiniment petit aussi, qu'on rapproche du fonctionnement astronomique, eh bien tout cela est parfaitement conventionnel dès l'origine, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Évidemment parce que c'est quelque chose qui est découpé, grillé, si vous voulez, grillé, enfin pas grillé au sens de friture, mais grillé, c'est-à-dire soumis à une grille, comme la grille des déchiffrements par l'homme. Évidemment, ce sont nos moyens traditionnels, les figures de rhétorique et les figures de géométrie traditionnelles qui nous permettent d'appliquer une grille et de distinguer cela et de déclarer que ceci est une structure, ceci est un être, alors qu'évidemment qu'il s'agit, si nous n'avions pas ces grilles, de quelque chose de parfaitement sans forme, n'est-ce pas, informe et d'une espèce de chaos dans lequel nous ne verrions absolument rien. Donc, n'importe quelle structure, et là, je veux le dire fortement, la science, même la science de ce qu'on appelle maintenant le structuralisme et tout cela, n'est-ce pas, eh bien, cela part de quelque chose qui n'est pas du tout une certitude scientifique. Tout cela est conventionnel par soi-même, déjà à l'origine, et ne peut pas être autrement. Enfin, c'est comme on ne peut pas être autre chose qu'anthropomorphique, enfin, comme je l'ai dit. Parce que nous sommes à l'intérieur du monde humain, nous sommes à l'intérieur des paroles, nous sommes à l'intérieur d'un langage déjà conventionnel par lui-même. Seulement, ce qui est important, ce qui me paraît vraiment alors merveilleux, si vous voulez, miraculeux en quelque façon, c'est que le fait même que n'importe quelle structure puisse se concevoir comme telle et se vouloir comme telle, s'accepter, s'avouer et se déclarer hautement ce qu'elle est, c'est-à-dire avec à la fois orgueil et humilité, n'est-ce pas, comme conventionnelle par elle-même, eh bien, si elle peut trouver le signe de cela, eh bien, à ce moment-là, il y aura une espèce de transmutation, alors, vraiment heureuse, jubilante. C'est ce que j'appelle l'objoie. Il y a là une sorte de morale qui consiste à déclarer qu'il faut qu'un orgasme se produise et que cet orgasme ne se produit que par l'espèce d'aveu et de proclamation que je ne suis que ce que je suis, qu'il y a une sorte de tautologie, comme dans le poème de Malherbe, par exemple, « Il n'est rien de si beau comme Calliste est belle », eh bien, tout le sonnet n'est qu'une tautologie. Pourquoi ? Parce que Calliste signifie déjà, étymologiquement, la plus belle. Alors que le fait de dire « il n'est rien de si beau comme Calliste est belle », eh bien, c'est une pure tautologie, n'est-ce pas? Et tout le poème est une pure tautologie. La beauté est la beauté, ce n'est que la beauté. Et il ne s'agit que de développer ça et de structurer cela, cette tautologie, qui est au fond contenue seulement dans le nom. Il s'agit de le développer dans la joie, dans la jubilation. J'en reviens encore à Montmalherbe, où il est déjà question de fusée, de départ, de plateforme pour départ de V2, parce que ces choses-là, je les ai ressenties, on a commencé à les ressentir pendant la dernière guerre. Enfin, maintenant, les mises en orbite, enfin, c'est très bien, mais pendant la guerre, c'était pas très, très intéressant de savoir quand on pouvait être écrasé par une fusée, n'est-ce pas? Eh bien, dans mon Malherbe, je dis que le projet existentiel de Malherbe est seulement que la parole sonne comme telle, c'est-à-dire qu'il ne s'agisse que d'une tautologie à sa propre gloire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le sujet, la signification des textes n'était qu'occasionnelle, mais qu'une certaine complexion de l'auteur, les mots passant à travers cette complexion faite d'un caractère, faite d'un goût, faite de scrupules, faite de hardiesse, etc., le caractère même de l'auteur était tel que, comme par exemple, le courant électrique passant à l'intérieur d'une ampoule électrique fait que le filament rougit et produit de la lumière et de l'éclat, eh bien, quand la parole passe à travers la complexion de quelqu'un qui est à la fois désireux, violemment, parfaitement furieux de désir et conscient et sans illusion quant à ce qu'il peut produire, eh bien, la parole rougit et éclaire du fait qu'elle ne fait que se dire elle-même. Je viens de dire que la parole ainsi conçue éclaire, c'est-à-dire qu'elle produit de la lumière. Il est évident que c'est aussi parce que le texte a été conçu dans l'intention de communiquer, d'éclairer, de produire une lumière. À qui? À quelqu'un, à l'autre, au lecteur ou ici à l'auditeur. Il est évident que c'est seulement dans la mesure où le lecteur lira vraiment, c'est-à-dire qu'il se subrogera à l'auteur au fur et à mesure de sa lecture, qu'il fera, si vous voulez, acte de commutation, comme on parle d'un commutateur, qu'il ouvrira la lumière, qu'il allumera, enfin qu'il tournera le bouton et qu'il recevra la lumière. C'est seulement donc le lecteur qui fait le livre lui-même en le lisant. Et il lui est demandé un acte qui n'est pas quelque chose comme un jeu, au sens de jeu de société, mais un acte révolutionnaire, un acte qui comporte le risque de se révolutionner soi-même.
Entretien avec Francis Ponge par Philippe Solers. C'était aujourd'hui le dernier entretien. L'écriture, fonctionnement, Objoie, le savon. Assistant Jacques Devin. Ainsi prend fin cette série de 12 entretiens avec Francis Ponge par Philippe Solers.